Donc, ce matin, j'ai choisi de faire, de présenter le message, de choisir le texte qui en Éphésiens ce matin. Nous allons aller en Éphésiens ce matin. Et j'ai choisi le chapitre 5. Et je vais faire une longue lecture, mais je pense que les versets sont liés, les textes sont liés, parce que dans la Bible a été, nous savons, partagé pour que la lecture soit plus facile, mais à mon sens, ce matin, j'ai trouvé que les versets sont liés ce matin. C'est pour cela que je vais faire une longue lecture. Alors, suivez-moi bien, quoi, même si la lecture est un peu longue. Voilà. Donc, je prendrai Éphésiens chapitre 5 et nous lirons à partir du verset 15. Et je vais aller jusqu'au chapitre 6, verset 9. Je vais essayer de faire ça vite, mais bien. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi. Ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le Sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être à leur mari en toutes choses. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Je reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives au longtemps sur la terre. Père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur, non comme des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard, et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre sont dans les cieux, et que devant lui, il n'y a point de favoritisme. Jusque-là. Voilà. Donc, je voulais dire que si Dieu nous a sauvés de l'enfer, ce n'est pas pour nous abandonner ensuite sur le bord de la route. Et c'est pourquoi ce texte commence par quelques recommandations morales pour que notre vie nouvelle soit saine et sage. Les chrétiens doivent éviter de se comporter en insensé, mais tirer le meilleur profit possible du temps dont nous disposons sur cette terre pour accomplir les projets de Dieu pour nous et pour connaître et comprendre la volonté de Dieu. En un mot, racheter le temps. Ce qui ne peut se faire que si nous sommes remplis du Saint-Esprit. Et c'est sur ce point-là que nous allons nous concentrer ce matin pour le message, pour le titre que j'ai donné, « Soyez continuellement remplis du Saint-Esprit ». Voilà. Nous savons tous, je l'espère en tout cas, que le jour où nous sommes nés de nouveau, c'est-à-dire le jour où nous sommes devenus enfants de Dieu en acceptant Christ comme Sauveur et Seigneur, le Saint-Esprit est venu habiter, demeurer en nous. C'est le don de grâce commune à tous ceux qui sont passés par la nouvelle naissance. Nous sommes baptisés du Saint-Esprit, l'onction de Dieu qui demeure en nous. Mais je vais essayer d'aller un peu plus loin ce matin. vu que notre texte nous recommande d'être remplis de l'Esprit. Nous allons donc voir et tenter de comprendre pourquoi cette recommandation, en essayant de répondre tout au long de mon développement, en quatre questions qui se posent, en nous appuyant bien sûr sur la parole de Dieu, la parole écrite de Dieu. Ces quatre questions, la plénitude, pourquoi faire? En quoi consiste la plénitude? Comment être rempli de l'Esprit? Et sait-on quand on est rempli de l'Esprit? Après la lecture de ce passage que nous venons de lire, on peut dire d'emblée que ce n'est pas la volonté de Dieu que nous soyons enivrés d'alcool. Mais l'idée centrale pour comprendre ce qu'il attend de nous, ce que Dieu attend de nous, ce que Dieu veut, c'est que nous nous conduisions avec sagesse et que notre vie soit gouvernée par son Saint-Esprit. Une communion authentique avec Dieu est induite par le Saint-Esprit en nous. Car on ne peut vivre la vie chrétienne sur notre terre autrement que par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, pas plus qu'on ne peut devenir enfant de Dieu sans lui, puisque c'est lui qui nous convainc. Verset 18 du chapitre 5, il nous dit « Ne vous enivrez pas de vin, ceux de la débauche, soyez au contraire remplis de l'Esprit. » En comparant ces deux états, on peut trouver des similarités. Par exemple, dans les deux cas, la personne est sous une puissance qui échappe à son contrôle. Le premier, c'est la puissance intoxicante de l'alcool, et le second, c'est la puissance de l'Esprit. Ensuite, dans les deux cas, on peut dire que la personne est fervente, enthousiaste, excitée. Et dans les deux cas, la marche de la personne est affectée, la marche physique en cas d'ivresse et le comportement moral en cas d'une personne remplie de l'Esprit. Mais nous remarquerons le contraste frappant que présentent ces deux états. L'ivresse de l'alcool, résultat de la débauche, produit la dissipation et donne une fausse joie, laisse un vide affreux et la plénitude d'esprit, au contraire, nous communique une force, une vraie joie du Saint-Esprit. Ce sont deux états bien différents, opposés, car si le premier est celle bien différent mais bien opposé aussi. Car si le premier est celle du corps par excès d'alcool, le second est celle de l'âme par la plénitude de l'esprit. L'un donne au corps des forces pernicieuses, une joie charnelle, une hardiesse présomptueuse produit l'oubli de Dieu et fait perdre la raison. Mais l'autre donne à l'âme une saine joie, un courage humble, des forces salutaires et fait oublier le monde et ses délices, ôte l'usage de la raison corrompue pour faire suivre par la foi la raison souveraine et la raison sainte qui est Dieu. Alors, ne vous enivrez pas de vin, soyez remplis de l'Esprit. Pourquoi devons-nous être remplis de l'Esprit? Tout d'abord, soyons clairs sur un point. Tous les enfants de Dieu ont le Saint-Esprit. S'il nous est recommandé d'être remplis, c'est que tout simplement, peut-être que tous n'ont pas la plénitude. Et plus précisément, c'est que tous ne sommes pas toujours remplis. Nous sommes encore trop peu à comprendre cela. Car beaucoup de nous, nous nous contentons peut-être d'une vie spirituelle médiocre ou pauvre. D'ailleurs, c'est pour cette raison que la Bible nous dit, il fait mention de chrétiens charnels et de chrétiens spirituels. Le charnel a l'Esprit de Dieu en lui avec lui, sinon il ne serait pas enfant de Dieu. Mais la différence, c'est qu'il se prive ou se laisse priver de se remplir, il se prive de se laisser remplir de l'Esprit. Alors que le spirituel, il est rempli de l'Esprit, il abandonne à Dieu tous ses droits et il met tout son cœur à faire la volonté de Dieu et Dieu l'utilise au maximum. Aux yeux de Dieu, la plénitude est une nécessité, Dieu l'exige. soyez remplis de l'Esprit. Vous savez, lorsque nous acceptons Christ comme Sauveur et Seigneur, la Bible nous dit que nous entrons dans le royaume de Dieu. Donc, je vous dirai ce matin, pourquoi rester à la frontière? Dieu est infini. Et la vie nouvelle, la vie éternelle qu'il nous donne, a nécessairement des possibilités sans bornes. Alors, visons haut, recherchons la plénitude. Ne négligeons pas les moyens que Dieu nous donne pour approfondir notre vie spirituelle. En quoi consiste et comment définir la plénitude? La parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit est une puissance. C'est la puissance de Dieu qui accomplit par nous des prodiges et des miracles. Donc l'expression « rempli » signifie être gouverné, être dominé par. Donc partant de cette définition, je crois pouvoir dire que si nous sommes remplis du Saint-Esprit, Dieu, le Saint-Esprit, vit en nous et de plus, il nous conduit et anime nos pensées, nos attitudes, nos paroles et nos actions. Donc, rempli de l'Esprit, c'est laisser Dieu nous inonder de bénédictions, laisser Dieu nous enseigner de nouvelles choses, c'est-à-dire laisser Dieu nous enseigner de nouvelles vérités, nous bénir d'une nouvelle manière. Rempli de l'Esprit, c'est permettre à Dieu de me changer, de m'enseigner, lui faire confiance pour faire des miracles dans ma vie. C'est mettre de côté mes doutes et les remplacer par la foi. Ici, dans notre texte, être rempli de l'Esprit est un commandement. Nous voyons, c'est un ordre. Soyez, nous est-il dit, soyez. Les enfants de Dieu reçoivent l'ordre d'être remplis de l'Esprit. Il nous est demandé d'agir. Chaque chrétien a donc la responsabilité d'être rempli de l'Esprit. Galates 5, 25 nous dit, « Si nous vivons par l'Esprit, marchons par l'Esprit. » C'est le résultat de notre obéissance, n'est-ce pas? La plénitude n'est pas un acte ponctuel, mais une action continue. On pourrait ainsi traduire le verset, « Soyez continuellement remplis de l'Esprit. » Ce notre verset nous dit, « Soyez remplis de l'Esprit. » Quand on regarde plus profondément, on pourrait dire « Soyez continuellement remplis de l'Esprit », d'où le titre que j'ai donné ce matin au message. Vous savez, l'ivresse est opposée à la plénitude d'esprit. Même si les deux évoquent et sont synonymes d'une emprise, d'un stimulant ou encore d'une puissance extérieure à nous-mêmes. On pourrait dire comme l'alcool, le Saint-Esprit change notre comportement. Que ce soit dans les décisions que nous prenons ou dans les jugements. Cependant, l'alcool agit d'une manière négative alors que l'esprit agit d'une manière positive. Je ne sais pas si vous avez déjà, ne serait-ce qu'une fois, été rempli par de vin. Non, on rigole, mais moi, je vais vous dire, moi ça m'est arrivé une fois. Et j'étais très, très jeune. J'avais 12 ans, je m'en souviendrai. Oui. Mais attendez la fin de l'histoire. Je nomme ça un insensé qui m'avait fait boire du vin. Et je ne vous dis pas, j'ai failli mourir ce jour-là. Parce que pourquoi? Il m'a tiré dessus. Il m'a fait boire. Et puis j'étais dans un sale état. J'ai fait tellement de bêtises. Je l'ai tellement provoqué. Je l'ai tellement insulté. Il m'a tiré dessus. Et là-bas, il restait dans un arbre. Enfin, bref. Si je vous dis ça, c'est pour vous faire assimiler le comportement négatif d'être rempli d'alcool. Voilà, fin de parenthèse. Voilà pourquoi nous lisons dans le verset 18, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Dans certains milieux, on ne parle guère du Saint-Esprit. Dans d'autres, on en parle tout le temps. Mais en limitant son action à une ou deux manifestations particulières. Je vous laisse deviner. Mais permettez-moi de vous dire que les deux sont des erreurs aussi tristes l'une comme l'autre. Et c'est en quelque sorte pour cela que je me suis penché sur le message de ce matin. en espérant vous donner une idée du vaste potentiel d'un chrétien rempli de l'Esprit. Le Saint-Esprit, quand il nous remplit, se manifeste avec une richesse de variations, je dirais, aussi grande que celle que nous pouvons remarquer dans la nature. Le Saint-Esprit, quand il nous remplit, déborde de multiples façons, infiniment diverses et variées. L'Esprit de Dieu n'aime pas qu'on le réduise à une formule. Il n'est pas limité à deux actions comme le parler en langue ou les guérisons, contrairement à ce que pourraient penser quelques-uns. Évitons, j'allais dire, mais nous ne pouvons pas d'ailleurs le limiter. Nous ne pouvons pas réduire le Saint-Esprit à une formule, parce qu'il est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Et Dieu, il n'est pas limité. Maintenant, comment être rempli d'esprit? Notre texte ne nous le dit pas, me direz-vous avec raison. Il ne fait que nous donner l'ordre d'être rempli. Mais nous comprenons par d'autres textes de la Bible qu'il nous faut confesser, ôter tout péché connu dans notre vie. Si nous lisons l'épître de Jean au chapitre 1, versets 5 à 9, nous voyons qu'il nous faut confesser, ôter et tous les péchés connus dans notre vie pour permettre l'action du Saint-Esprit. Il nous faut nous abandonner entièrement à son autorité. Selon Romains 12, versets 1 et 2, il faut que la parole demeure en nous dans toute sa richesse, nous dit Colossiens 3, verset 16. Et en dernier lieu, nous vider de nous-mêmes, Galates 2, 20. Pour qu'un contenant puisse être rempli de nouveaux fluides, je dirais, il doit d'abord être vidé de l'ancien. Si nous voulons être remplis de l'Esprit, il nous faut d'abord nous vider de nous-mêmes. Laisser l'Esprit dominer toutes nos pensées, tous nos actes, et ceci nous emmène à la question, sait-on quand on est rempli? En fait, plus nous vivons près du Seigneur et que sa parole habite en nous, dans toute sa richesse, il se produit l'effet que nous pouvons lire dans les versets 19 à 21 de notre texte. Être rempli du Saint-Esprit, c'est laisser l'Esprit dominer toutes nos pensées, tous nos actes. Le chrétien est rempli de l'Esprit peut se rendre compte. Il voit que les choses se passent d'une manière un peu surnaturelle, je dirais. Et ce que nous lisons dans les versets 19 à 21 sont quelques traits visibles d'un chrétien rempli de l'Esprit. Par exemple, on chante à Dieu, on lui rend grâce continuellement par des psaumes, par des hymnes, etc. Mais la plénitude ne concerne pas seulement l'adoration ou la reconnaissance. Elle concerne également nos relations humaines. Certaines circonstances se mettent en place miraculeusement. Nous faisons preuve d'humilité, de soumission mutuelle. Et dans les versets 22 jusqu'au chapitre 6 du verset 9, voilà pourquoi je dis que tout est lié à mon sens, nous trouvons des exemples de soumission dont il est question dans le verset 21, c'est-à-dire dans les rapports femme-mari, enfant-parent, esclave ou employé, esclave-maître, employé-patron. La plénitude se manifeste par le fruit que produit l'Esprit en nous. Amour, joie, paix, patience, bonté, bénignité, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Ces qualités sont en somme les aspects de l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par Jésus-Christ. Un croyant rempli de l'amour de Jésus-Christ, qui n'est pas rempli de l'amour de Jésus-Christ, n'est pas rempli de l'Esprit, quelles que soient ses prétentions. Le chrétien rempli de l'Esprit va avoir de bonnes priorités, selon le verset 16 de notre texte. Il va obéir à Dieu, verset 17. Il encourage les autres chrétiens par ses louanges, verset 19. Il est reconnaissant, verset 20. Et il vit ses relations humaines de la manière suivante. Rempli de l'Esprit, une femme est soumise à son mari comme l'Église l'est à Christ, verset 22 à 24. Et un mari aime sa femme comme Christ aime l'Église, verset 25 à 33. Les enfants obéissent à leurs parents, les honorent, verset 6, chapitre 6, des versets 1 à 3. Et puis un père n'irrite pas ses enfants, mais il les élève et les corrige selon le Seigneur, verset 4 du chapitre 6. Et puis un employé ou un ouvrier obéit à son employeur comme s'il servait Christ, versets 5 et 8 du chapitre 6. Enfin, le patron, aussi l'employeur, il agit d'une manière juste avec ses employés, verset 6, 9 du chapitre 6. Tout cela pour vous dire que la plénitude signe le témoignage de Christ en nous, crée une communion intense entre Dieu et nous que les hommes peuvent reconnaître et qu'ils savent reconnaître. Lorsque nous sommes remplis de l'Esprit, nous aimons Dieu de tout notre cœur. Nous aimons notre prochain comme nous-mêmes et notre frère comme Christ nous a aimés. L'Esprit nous remplissant crée une communion intense entre Dieu et nous et crée ensuite une communion profonde entre moi et mes frères. La plénitude ne divise pas, elle unit. Mais le vaste potentiel d'un enfant de Dieu rempli de l'Esprit peut aller encore plus loin, car Dieu ne fabrique pas des hommes en série. Chacun, pour sa part, est une âme unique que Dieu qualifie pour des dons à son service lorsque nous sommes remplis de son Esprit. Si nous regardons, par exemple, dans les Actes des Apôtres, livre très apprécié pour les informations des débuts de l'histoire de l'Église, et où l'Esprit, le Saint-Esprit, occupe un rôle central, nous voyons que les disciples étaient souvent remplis du Saint-Esprit, et que cette plénitude a rendu efficace leur témoignage en faveur de Christ. C'est parce qu'ils étaient remplis le jour de la Pentecôte que 3000 personnes ont été convaincues et se sont converties. Au chapitre 4 des Actes, verset 8, nous voyons l'apôtre Pierre qui n'a pas peur devant les autorités responsables de la crucifixion de Jésus de dénoncer leur crime. Dans ce même chapitre, au verset des Actes, chapitre verset 31, Pierre et Jean, sortant de prison, ont annoncé la parole de Dieu avec assurance, c'est-à-dire qu'ils n'avaient peur de rien. Le chapitre 11 des Actes, verset 24, nous pouvons lire que Barnabas était plein d'Esprit Saint. Toujours dans Actes, chapitre 13, verset 9, nous voyons Paul dénoncer un sorcier, Elimas, et le meilleur d'état de nuire. Il met hors d'état de nuire le démon qui l'animait. Je vous fais toutes ces citations parce que dans toutes ces situations, nous pouvons voir que la plénitude de l'Esprit apportait à la parole et au témoignage des apôtres l'autorité de Dieu. Le Saint-Esprit nous remplit pour que nous servions Dieu et les autres. La plénitude, ce n'est pas juste un sentiment, mais lorsque l'action de l'Esprit de Dieu nous transforme d'une manière spéciale pour que nous soyons comme Jésus dans notre caractère et dans notre service pour le Seigneur. Aucun de nous ne peut servir Dieu par ses propres moyens. La plénitude nous donne un courage qui étonne, elle nous donne une joie débordante. Mais attention, je dirais, on ne reçoit pas la plénitude une fois pour toutes et on ne peut pas s'afficher l'étiquette définitivement remplie. Non. En revanche, si je suis un enfant de Dieu, je le suis pour toujours. Ça, il n'y a pas de doute. Alors que la plénitude d'aujourd'hui ne garantit en rien celle de demain. On peut la perdre, mais heureusement, on peut aussi la retrouver. C'est pourquoi il nous est dit, soyez remplis du Saint-Esprit, soyez remplis de l'Esprit de Dieu. Cela doit être une action continue. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas posséder l'Esprit de Dieu et le garder pour nous-mêmes. Nous connaissons la plénitude de l'Esprit lorsque nous laissons Dieu, par son Esprit, passer au travers de nous et nous remplir régulièrement. C'est un processus sans fin. En d'autres termes, nous ne pouvons pas obtenir la plénitude de l'Esprit simplement pour notre satisfaction personnelle. Elle nous est donnée pour faire la volonté de Dieu. C'est un peu comme une rivière qui reçoit en abondance l'eau de la montagne et puis la laisse couler dans la vallée. Et inonde tout sur son passage, et non pas comme un étang qui garde toute l'eau qu'elle reçoit. Pour conclure, je dirais qu'il n'existe qu'une façon de connaître en permanence la joie, le bonheur et le courage, être rempli du Saint-Esprit, être rempli de l'Esprit de Dieu. Alors continuez d'être rempli de l'Esprit, ce n'est pas un simple conseil que je vous donne ce matin, mais un impératif d'être continuellement rempli de l'Esprit, pas seulement aujourd'hui et demain, mais toute la semaine, tout le mois, toute l'année et toute notre vie. En tant que chrétiens, nous devons être dominés par l'Esprit dans toutes nos relations. Nous voyons dans nos versets 6 à verset 22 jusqu'au chapitre 6, verset 9. Nous devons être dominés dans toutes nos relations, marcher dans la sagesse pour manifester dans notre quotidien les traits de caractère d'un enfant de Dieu rempli par son Esprit, rempli de son Esprit. Un homme rempli de l'Esprit est sous le contrôle de l'Esprit et voit se développer en lui le fruit de l'Esprit. Il reconnaît que Dieu gère tout et lui rend grâce pour tout. Il rend témoignage et accomplit les actes de service que Dieu met devant lui. Dieu conçoit la plénitude de l'Esprit comme étant l'état normal de tout enfant de Dieu sur terre. Soyons tous sans cesse en train d'être remplis de l'Esprit à partir de maintenant, vivant au plus près de Dieu pour être constamment renouvelés par le courant perpétuel de la vie divine que Dieu verse en nous au travers de nous pour maintenir l'abondance, c'est-à-dire être continuellement remplis du Saint-Esprit. Vous avez reçu l'onction à la nouvelle naissance, n'attristez pas le Saint-Esprit. C'est l'eau qui coule en abondance, nous dit l'évangile de Jean, chapitre 7, verset 38 à 39. C'est l'eau qui coule en abondance dans notre vie et qui veut jaillir. C'est le feu qui purifie. C'est un vent qui vivifiant. C'est une huile de réconfort et c'est une pluie abondante qui fertilise. Que Dieu nous bénisse ce matin.